C'est moi, maître.
Et où vous croyez-vous?
À l'opéra, maître.
L'opéra de Paris, toute une histoire. Sixième épisode, le scandale de Tannhäuser. Même si on en a souvent entendu parler, on n'imagine pas le chaos que ça a été. Pourtant, la première représentation du Tannhäuser de Richard Wagner à l'opéra de la rue Le Pelletier, ce 13 mars 1861, n'a pas été si controversée que ça en comparaison des deux suivantes. Car il n'y aura en tout que trois représentations, et la troisième et dernière, le dimanche 24 mars, sera la pire, la plus violente, la plus insupportable. Ce sinistre dimanche, on est passé du rire gras et des huées imbéciles à la grosse artillerie. Certains spectateurs sont venus armés, qui de becs de clarinette, qui de cornets à bouquins. Au paradis, un monsieur souffle dans un cornet à piston. Dans une loge d'avant-scène, d'autres se relaient pour frapper à tour de bras. Une grosse cloche arrivait là, Dieu sait comment. Ah, le public parisien, rumine Wagner. Un grand public qu'on a travaillé contre moi avec une rage presque sans exemple. Et il faut bien reconnaître que Tannhäuser, en 1861 à Paris, reste un des scandales les plus retentissants de toute l'histoire de l'opéra. Alors que s'est-il passé? Comment le public parisien a-t-il pu en arriver là? Au fond de lui, Wagner le sait bien comment on en est arrivé là. On ne dira pas qu'il l'a cherché, non, mais tout de même, il savait qu'il prenait un risque en bousculant certaines traditions. À l'époque, tout grand opéra donné à l'Académie impériale de musique, et ce depuis la meute de Portici d'Aubert 30 ans plus tôt, tout grand opéra donc compte 5 actes et doit comporter un ballet qu'on placera idéalement au début du troisième acte. Un ballet qui donne le temps à ces messieurs de souper tranquillement et d'admirer à loisir leurs ballerines qu'ils iront rejoindre après le spectacle dans le foyer de la danse spécialement conçu pour l'usage. Jusque-là, tous les compositeurs se sont pliés à l'exercice, et non des moindres. Aubert, Halévy, Meyerbeer, même Verdi, avec les Vêpres siciliennes en 1855, puis avec Don Carlos pour l'exposition universelle 12 ans plus tard. Tout le monde le lui a dit, mais Wagner s'est obstiné. Il a déjà accepté de faire chanter son opéra en français, alors rajouter un ballet pour plaire au public, non. Non, il n'allait pas faire comme tout le monde, c'est dans son caractère. Écoutez-le, ce Rastignac, annoncer encore tout jeune la manière dont il allait s'y prendre à Paris. J'avais à l'esprit le grand opéra, avec toute sa splendeur scénique et musicale, avec son goût pour les fées, pour les passions musicales de masse. Et mon ambition artistique n'était pas simplement de limiter, mais de surenchérir avec une débauche de moyens effrénés sur tout ce qui avait été produit dans le genre jusqu'à présent. Rien que ça. Quelle immodestie! Mais c'est surtout sans tenir compte des plaisirs et des habitudes du puissant Jockey Club. Erreur fatale! Thank you. Depuis qu'il est à Paris, tout a été difficile. Wagner a remué ciel et terre et n'a pas ménagé ses efforts pour faire jouer Tannhäuser à l'opéra. Et déjà, beaucoup de choses ont déplu dans sa façon de faire. Arrivé à Paris un an et demi plus tôt, le 15 septembre 1859, il en est à son 7e séjour dans la capitale française. Il s'est d'abord installé 4 avenue Matignon, puis a dû déménager 16 rue Newton. Il a multiplié les contacts auprès des directeurs, des interprètes, des journalistes, des conservateurs de musées, des écrivains, bref, de toute personne pouvant l'aider à faire jouer ses œuvres. Ensuite, il a loué un pavillon avec jardin où, pendant 3 ans, il a organisé des réceptions tous les mercredis soirs. On y a croisé Jules Ferry, Gustave Doré, Catulle Mendès, Berlioz, Saint-Saëns, Gounod et beaucoup d'autres. Jamais, jamais Wagner n'abandonne ni ne lâche prise. À Paris, on joue les opéras en français ? Qu'à cela ne tienne, il fait traduire son livret et modifie en fonction sa partition. Son projet ? Comme l'opéra s'obstine à refuser sa musique, il va lancer une entreprise allemande pour jouer au théâtre Ventadour Tristan, Tannhäuser et Lohengrin. Il se rabat finalement sur le théâtre italien où il dirige 3 concerts de ses œuvres avec un beau succès mais aussi un déficit de 10 000 francs. Ses soutiens artistiques ? Baudelaire, qui succombe à ses opéras et écrit « Il me semblait que cette musique était la mienne et je la reconnaissais comme tout homme reconnaît les choses qu'il est destiné à aimer. » Berlioz parle, lui, de musique de l'avenir. Mais rien n'y fait. Les portes de l'opéra lui restent toujours désespérément fermées. Jusqu'à cette soirée de bal aux Tuileries, le 12 mars 1860, qui va tout changer. Quelques jours plus tôt, Wagner s'était plaint des difficultés de faire représenter ses œuvres à Paris auprès de la princesse de Metternich, une aristocrate autrichienne, épouse d'ambassadeur et personnalité très influente, bien qu'impopulaire, dans le Paris du Second Empire. On imagine aisément Pauline de Metternich, soutenue par sa coterie, intervenir directement auprès de Napoléon III. « Majesté, notre grand génie Richard Wagner éprouve toutes les difficultés du monde à faire jouer son opéra sur la scène de l'Académie. » Pourrions-nous faire quelque chose ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Dans l'instant, rapporte un témoin, Sa Majesté appela le comte Batschoki et lui dit textuellement ces mots « La princesse de Metternich désirerait que l'on représentât le Tannhäuser de Wagner sur la scène de l'opéra. Faites donc savoir tout de suite qu'on est à mettre cet ouvrage en scène. » Ainsi, Napoléon III imposait-il Tannhäuser à l'opéra de Paris ? Cela aussi, les Parisiens le lui feront payer. Les répétitions commencent le 24 septembre 1860 dans la salle de la rue Lepelletier. Il y en aura en tout 164. Peu favorable à Wagner, imposé par l'empereur, le directeur de l'opéra Alphonse Royer estime tout de même, devis à l'appui, qu'on pourrait partir sur 25, voire 30 représentations. Mais immédiatement, il flaire l'embûche à propos du ballet et insiste pour que le compositeur en ajoute un à son acte 2, ce que Wagner refuse sur le champ, proposant en échange de remanier la scène de Vénus au premier acte et de l'enrichir d'une bacchanale. Or, c'est au premier acte, juste après l'ouverture, pas au milieu de l'œuvre comme l'exigent les codes mondains en vigueur. Mais vous connaissez Wagner, l'affaire est close. Ce sera ça ou rien. En attendant, il est aux anges. Il n'en revient pas des moyens mis à sa disposition pour son Tannhäuser. À peine avais-je formulé le désir d'une acquisition d'un chanteur qu'il y était fait droit sans qu'on regardât le moins du monde aux frais. La production coûtera plus de 100 000 francs à l'administration. Vers février 1861, disons un mois avant la première, la situation s'envenime. Les décors, signés Chaperon et Desplechin, privilégient une esthétique gothique pour la salle des chanteurs au deuxième acte. Côté jardin, le point de fuite est dévié vers le lointain. Une diagonale permet ainsi d'accroître artificiellement la longueur de la salle. Ces deux peintres virtuoses ont usé de tout leur savoir-faire pour accentuer les effets de profondeur et de perspective en trompe-l'œil. L'effet est très réussi. La bacchanale, chorégraphiée par Marius Petipas, satisfait plutôt Wagner. Non, ça n'est pas ça. C'est le chef d'orchestre, Pierre-Louis Dietsch, qui est sa bête noire. Wagner ne le supporte plus. Il le trouve au-delà du médiocre. C'est une misérable andouille, dira même son ami Hans von Bülow. Le 25 février, excédé, Wagner demande l'autorisation de diriger lui-même l'orchestre pour la générale et les trois premières. Mais il n'en est pas question. Cette faveur lui est refusée net. Jamais en France, décrète l'Académie impériale de musique, soit qu'il s'agit des œuvres de nos compositeurs, soit qu'il s'agit de celles des maîtres étrangers, le directeur de l'orchestre n'a été déshérité du droit de rester à la tête de sa phalange d'exécutants. Trop, c'est trop. En répétition, on voit donc d'un côté Wagner battre la mesure, pendant qu'en fausse, Pierre-Louis Dietsch la bat tout autrement. Wagner s'en rend malade. Il est de plus en plus irritable. Le climat est lourd, électrique. Tout dégénère. Et la veille de la première, on sent qu'il va se passer quelque chose. La voilà enfin, cette première. On a tellement ébruité l'ambiance des répétitions que tout le monde veut en être. Des fauteuils se vendent 100 francs, des loges 1000. L'administration de l'opéra est assaillie de demandes de célébrités du monde de la politique, de la finance, des arts, des lettres. Impossible de satisfaire tout le monde. La première a lieu le 13 mars 1861 en présence de la cour. Wagner y assiste depuis la loge du directeur. Sans surprise, il juge la direction du chef molle, mais il est plutôt calme, il attend que ça se passe. Les décors et les costumes sont appréciés, de même que les chœurs et les solistes, à l'exception du ténor allemand qui l'a fait venir, Albert Niemann. Niemann, qui a déjà chanté Tannhäuser en Allemagne, a appris le rôle en français pour cette reprise, mais ce soir il est plutôt mal disposé. Au début, l'ouverture a été applaudie. Mais la scène du Vénusberg a peu à peu provoqué des rires et des commentaires peu sympathiques. Ensuite, les musiciens d'orchestre en ont profité pour renchérir. Eux que Wagner a si maltraités durant les répétitions en profitent pour se venger et glissent des couacs, des fausses notes dans la partition. Effet garanti. Et les membres du Jockey Club, avec à leur tête leur président, le duc de Fitz-James, prennent le relais et lancent la cabale. Il se pourrait aussi qu'il soit manipulé par une certaine comtesse Walewska, ennemie jurée de la princesse de Metternich, vous vous souvenez d'elle? On dit aussi que les vrais meneurs sont deux vieux critiques à barbiche, Gustave Ecke et un certain Scudo. Quoi qu'il en soit, le sort de Tannhäuser est scellé. Le deuxième acte laisse le public indifférent, la scène de concours de chant, elle, est jugée trop longue. Quant au troisième acte, en dépit du chœur des pèlerins, toute la fin est huée et couverte de sifflets. Cette première est un four sans appel. Pour la deuxième représentation, le 18 mars, Wagner coupe plusieurs scènes. Mais la cabale s'amplifie. Les membres du Jockey Club viennent avec des sifflets de chasse. Et pour la troisième et dernière, 6 jours plus tard, c'est la débandade. Je succombe à la cabale, déclare Richard Wagner. Dégoûté, il adresse ces mots au directeur de l'opéra. Monsieur, puisque des membres du Jockey Club ne veulent pas permettre que le public de Paris puisse entendre mon opéra, je retire ma partition. Le fiasco est énorme. Il me semble que je pourrais écrire demain quelque chose de semblable en m'inspirant de mon chat marchant sur le clavier d'un piano, relate Prosper Mérimée. Aubert dit que c'est du Berlioz sans mélodie. Et Rossini, lui, qu'en dit-il ? Puisqu'il s'agit de la musique de l'avenir, glisse-t-il ironique, je me prononcerai dans une cinquantaine d'années. Pour s'amuser, on dit que Rossini plaçait la partition de Tannhäuser à l'envers sur son piano et lorsque quelqu'un lui faisait remarquer, il répondait quelque chose comme « Je trouve que ça sonne aussi très bien de ce côté-là ». Heureusement, Charles Baudelaire se démarque. Aucun musicien n'excelle, comme Wagner, à peindre l'espace et la profondeur matérielle et spirituelle. Il possède l'art de traduire par des gradations subtiles tout ce qu'il y a d'excessif, d'immense, d'ambitieux dans l'homme spirituel et naturel. Il semble parfois, en écoutant cette musique ardente et despotique, qu'on retrouve peinte sur le fond des ténèbres, déchirées par la rêverie, les vertigineuses conceptions de l'opium. Le public parisien attendra 30 ans avant de revoir un opéra de Wagner. Ce sera Lohengrin, en 1891. Wagner ne sera plus de ce monde. Tannhäuser de sinistre mémoire patientera encore 4 autres années au purgatoire.
L'Opéra de Paris, toute une histoire. Jérémy Rousseau, France Musique.
Après le scandale et les huées, retrouvons la musique et les vers de Tannhäuser de Wagner, et rien que.
L'amour m'inspire et fait vibrer ma voix dans tel bonheur qu'un mortel n'ose attendre. L'ardent désir me brûlait de ses feux. À toi, le Dieu seul, ont osé prétendre, et ton amour m'a fait blesse. cœur de l'homme plus changeant emplit de ce bonheur immense. Mon cœur appelle la souffrance de ton empire. Il faut partir pour sanftes Licht, entzündest du der Ferne.
Thank you.
nous avons écouté des extraits de Tannhäuser de Richard Wagner par José de Trévy, Michel Danse, Mathias Görneux, Eva Maria Westbrück, Régine Crespin, Stephen Gould et Anne-Marie Kremer. Tous les détails à retrouver sur francemusique.fr. L'Opéra de Paris, toute une histoire, émission préparée par Marion Guillemet, prise de son Jean-Michel Bernaud, mixage Guillaume Ledu, réalisation Claire Lagarde. Samedi prochain, 7e épisode, on inaugure le Palais Garnier.
France Musique, c'est l'été ?